Pour se déculpabiliser, un inconscient a une seule solution, c'est celle de s'infliger une punition. C'est ce que l'on appelle un mécanisme autopunitif. On appelle cela un besoin de punition, c'est une expression qui a été postulée par Freud et qui évoque le mécanisme suivant lequel certains individus vont systématiquement se mettre dans des situations douloureuses, dans des situations pénibles. En psychogénéalogie, on parle de retour périodique, d'événements malheureux. C'est ce que l'on appelle également la névrose de destinée. Alors très souvent, les culpabilités s'étayent sur des rivalités œdipiennes. Si l'on reprend l'exemple de mon histoire, on peut faire le raisonnement suivant. Lorsque mon père est mort, j'étais en période œdipienne, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vivais en tant que fille une grande histoire d'amour avec mon père. Donc, lorsque mon père est mort, mon inconscient a fantasmé que c'est parce que j'avais trop aimé papa qu'il en est mort. Donc, c'est de ma faute, je suis responsable de sa mort. Je vais donc chercher à me punir. Comme c'est de ma faute, j'ai privé maman de papa, donc à mon tour, je vais me priver de maman. On peut l'envisager également du côté de ma mère. Lorsque mon père est mort, l'inconscient de ma mère a forcément culpabilisé quant à son décès. Elle s'est vécue responsable de la mort de son mari. Alors, il peut y avoir eu des raisons importantes comme des raisons beaucoup plus anodines. Un inconscient peut culpabiliser sur de petites choses. Il a suffi par exemple que 2 ou 3 jours avant le décès de mon père, mes parents se soient disputés. Et pour un inconscient, c'est suffisant. Donc ma mère s'est vécue responsable du fait d'avoir privé ses filles de leur père. Donc à son tour, elle s'est privée de ses filles. C'est se faire à soi-même ce que l'on a fantasmé avoir fait aux autres. Il est bien évident que ce besoin de punition va dans les deux sens, puisque je vais me priver de l'autre, mais en même temps, je vais priver l'autre de moi. On voit donc dans ce processus que masochisme rime avec sadisme. C'est en ce sens que l'on a souvent coutume de dire que les névroses se complètent, c'est-à-dire qu'elles vont s'alimenter les unes aux autres, avec des rôles qui vont alterner bourreau-victime. Tantôt je suis un bourreau, tantôt je suis une victime. Alors lorsqu'on dit que les névroses se complètent, ce n'est pas tout à fait exact, en ce sens que ce qui va correspondre, c'est en fait le symptôme. Lorsque deux individus vont se rencontrer, ils ne vont pas se rencontrer par hasard, ils vont se rencontrer parce que inconsciemment, ils savent qu'ils ont le même symptôme, c'est-à-dire la même névrose familiale, on va dire en quelque sorte la même manifestation. Mais l'histoire n'est pas la même. À chaque individu correspond une histoire qui est à l'origine de la névrose et du symptôme, mais ce ne sont pas les mêmes histoires. Alors, quel avenir peut-on envisager pour un enfant abandonné? Tout d'abord, on ne peut que constater les conséquences négatives qui en résultent. On va dire les dégâts qui sont mis en place. Alors, il y a tout d'abord inévitablement la mise en place d'une névrose d'abandon. Ce sont les psychanalystes Audier et Germaine Gex qui, les premiers, ont utilisé ce terme. Qu'est-ce que c'est qui caractérise une névrose d'abandon? Chez un abandonnique, on constate très fréquemment une angoisse permanente d'être abandonné, quelles que soient les circonstances, un besoin de sécurité affective très fort, avec également mise en place de vérifications permanentes pour s'assurer qu'il est véritablement capacitaire à être aimable. on peut avoir aussi des comportements surprenants, tels que des individus qui peuvent devenir soudainement odieux. Alors odieux, d'une part, pour vérifier qu'ils sont bel et bien aimés, mais aussi dans le cas contraire où la personne à laquelle ils s'adressent va mettre en place une séparation de par leur attitude, leur permettre de constater qu'effectivement, ils s'inscrivent bel et bien dans une lignée de processus abandonniques. Et qu'en ce sens, c'est inévitable, ils vont là mettre en place une forme de, disons, de jouissance pathologique. Les abandonniques, très souvent, vont aussi avoir tendance à mettre en place des ruptures fréquentes, tant sur le plan affectif que social. Ils vont fréquemment préférer abandonner avant que de ne prendre le risque éventuel d'être eux-mêmes abandonnés. C'est le célèbre laisser avant d'être laissé. Dans leur avidité d'être aimé, Germaine Gex a évoqué ce terme de gloutonnerie affective. Alors à ce propos, il me vient à l'esprit un exemple au travers de ma pratique qui témoigne effectivement de l'émotion que peuvent vivre les enfants. J'ai eu en analyse une jeune patiente de 13 ans avec une histoire assez lourde. Elle avait perdu à 2 ans d'intervalle sa mère d'un accident cardiaque et puis sa sœur également d'un accident cardiaque suite à un effort sportif. Donc on voit qu'il s'agissait là, dans cette famille, véritablement d'une problématique de cœur. Alors lorsqu'elle m'a été amenée par son père, en fait l'attitude du père était une attitude très démissionnaire, c'est-à-dire que cet homme en fait venait parce qu'il en avait assez d'avoir sa fille perturbée, en échec scolaire, avec des attitudes discutables, beaucoup d'agitation, beaucoup de dissipation. Et en fait cet homme attendait de l'extérieur une solution miracle qui aurait pu en quelque sorte rendre sa fille comme elle était auparavant. Mais il ne savait pas l'entourer et essayer de comprendre sa problématique puisqu'il était même en train d'envisager de la placer dans une famille d'accueil. Alors effectivement, cet homme n'avait pas compris qu'en fait, ce dont sa fille avait besoin, c'était d'amour et non pas de faire comme il le faisait lui, en essayant vainement de chercher des structures spécialisées qui auraient pu, avec des méthodes bien précises, modifier le comportement de sa fille. Alors après la névrose d'abandon, va intervenir le complexe d'infériorité. Disons que la névrose d'abandon va exacerber un complexe d'infériorité. Lorsque quelqu'un est abandonné, il va se vivre sans intérêt. Il va se dire qu'il a été abandonné effectivement parce qu'il ne vaut rien, voire même parce qu'il est nul. Donc va se mettre en place un sentiment de non-valeur, une mésestime de soi, pouvant même aller jusqu'à des processus d'auto-exclusion. C'est ce que l'on peut rencontrer de façon un peu moindre, mais malgré tout sur des processus abandonniques, lorsque quelquefois les enfants disent qu'en classe, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de copains, qu'ils sont tout seuls dans la cour de récréation, que personne ne joue avec eux.